I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Très très rapidement, en fait, il y a un manager qui m'a contacté et donc il m'a dit ah, sympa ton morceau, est-ce que ça dit qu'on voilà qu'on se rencontre, j'aime ton univers. Bon, il y avait qu'un morceau, donc ok, le courant est bien passé. Et il m'a dit est-ce que tu as d'autres titres, et donc j'ai répondu oui, ce qui était pas vraiment vrai. Et il m'a dit ah, tu peux me les faire écouter. J'ai dit ouais, tranquille, dans deux semaines, tranquille. Et du coup, bah, je suis rentrée chez moi et je te laisse imaginer la panique parce que voilà, il a fallu en 15 jours que voilà, que j'écrive genre 5, 6, je sais même plus combien j'en ai fait, une petite dizaine quoi.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. On est donc avec Marie-Flore. Bienvenue Marie-Flore.
Merci.
Comment ça va?
Écoute, ça va plutôt bien.
Marie-Flore, tu viens de sortir là ton album, qui est ton quatrième album. Quatrième, hein?
Quatrième, oui, deuxième, j'aime à dire deuxième en français.
Oui, c'est ça. qui s'appelle Je sais pas si ça va.
Ouais.
Je crois que c'est assez, commun au reste de la planète en ce moment. Ça marche plutôt pas trop mal, quoi. Je crois que le reste du monde sait pas trop si ça va, quoi.
J'espère qu'on est en phase là-dessus.
Je crois que, enfin, en tout cas, moi, je suis un peu dans ce mood-là de je sais pas si ça va, en vrai. Bienvenue dans Histoire de succès. On va parler un petit peu de ta carrière et de ton histoire. Et la première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Marie-Flore, quand tu avais 7-8 ans?
Alors, j'en ai pas une très grande idée, je crois, parce que j'ai pas trop de souvenirs de quand j'étais très jeune. Mais d'après ma mère, il se pourrait que voilà, j'eusse été une petite fille assez sage, gentille, pas trop réservée, mais voilà, tout ce qu'il y a de plus, je dirais, classique, je crois.
Ok.
Voilà.
Tu n'étais pas en train de chanter déjà? Tu avais déjà des accointances pour la musique d'une manière ou d'une autre, ou...
J'avais déjà des accointances, ouais. Je faisais de l'alto, donc une sorte de violon plus grave. Et ça, j'en faisais depuis 2-3 ans, parce que j'ai commencé vers 6 ans, je crois, à faire de l'alto.
C'est toi qui avais choisi de faire du violon?
En fait, j'ai vu mon frère en faire, et bon, par mimétisme, j'ai dit à ma mère, ah, c'est quoi ça? Moi aussi, je veux faire du bruit. Et donc, du coup, elle m'a collé à l'alto comme ça. Peut-être qu'elle espérait monter un quatuor, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc, je me suis mise à l'alto, et c'était à peu près, c'est la seule connexion, on va dire, musicale que j'avais avec, voilà, avec la musique. Bon, ce qui est déjà une bonne connexion, puisque c'est la pratique, voilà, assez, prématuré, tu vois, d'un instrument. Donc voilà, j'étais surtout concentrée sur ça. Et après, on va dire que dans ma tête, par contre, non, je m'imaginais pas du tout chanteuse. J'ai pas de souvenir de moi qui chantait sous la douche à 6 ans. Non,
ouais, des vidéos de réunion de famille.
Ouais, non, pas du tout, pas du tout, du tout.
En revanche, c'est quand même un instrument très compliqué à jouer. Enfin, le violon d'une manière générale et l'alto, quoi. Non mais en fait pour moi il y a un vrai truc aussi de c'est pas un instrument simple. et qui t'incite vraiment à taffer, quoi.
Ouais, ouais, bon, après, tous les instruments nécessitent, je pense, une pratique, tu vois, il n'y a aucun, peut-être à part le ukulélé, mais sinon, sinon tous les instruments sont quand même, enfin, ont leur lot de, tu vois, de difficultés et tout, bah, là, d'apprentissage, comme... mais c'est vrai que la corde, pour bien faire, la faire sonner, l'archer, bien le faire glisser, être en rythme, être juste, c'est vrai que le violon, c'est pas comme un piano, c'est quand t'appuies sur un piano, t'as la bonne note tout de suite.
Tout de suite.
Un violon, effectivement, il faut développer l'oreille, quoi, les positions de doigts, etc. Et puis souvent, suivant comment tu appuies, le vibrato, etc. Donc, non, c'est sûr que c'est pas simple, mais à la fois, moi, honnêtement, j'avais pas du tout ça dans la tête. J'étais juste en train de vouloir faire cet instrument, tu vois. Et je me suis jamais dit... bah, de toute façon, j'avais pas de comparatif, vraiment, hein, puisqu'à la maison, mes parents étaient pas vraiment musiciens, tu vois. Donc, je savais pas forcément... quel travail ça apprenait, tu vois, de te mettre à un instrument, quoi. Donc, pour moi, ça a toujours été... Enfin, voilà, c'est... L'apprentissage, c'était apprendre l'alto, et puis voilà.
Ils faisaient quoi ou ils font quoi, tes parents, comme métier ?
Alors, mon père est cadre dans un hôpital, et ma mère est professeure de littérature et d'histoire.
D'accord.
En lycée pro.
Pourquoi tu disais tout à l'heure que ta mère voulait monter un quatuor ?
Non, c'était une blague.
Non, mais non,
je me
pas.
Dis, si elle avait eu, tu vois, plusieurs enfants, elle aurait peut-être monté un orchestre, du coup, avec nous tous, voilà.
Non, je me demandais si elle-même jouait du violon.
Non, écoute, elle chante, elle chante dans des chorales, mais plus des chorales qui sont, enfin, de musique classique, tu vois.
Okay.
Des cantiques, ce genre de trucs. Donc ça, elle a toujours fait ça. Si tant est que, à l'adolescence, je suis devenue un petit peu justement allergique à tout ça, quoi. Mais trop entendu, tu vois, à la maison.
Oui.
Et mais non, elle pratique pas de, elle pratique pas d'instrument.
D'accord. Hein. Comment ça se passe l'école pour toi ?
L'école se passe plutôt bien, sans encombre.
Ok.
Voilà, j'ai suivi un parcours un peu, enfin, je dirais normal, dans le sens où j'avais pas de grosses difficultés, j'ai pas beaucoup non plus trop travaillé dur, on va dire. Donc j'étais une élève, voilà, qui, voilà, donc. Très passionnée par certains sujets, de très mauvaise volonté sur les sujets que j'aimais pas, du type les maths, etc.
C'était quoi tes matières de prédilection ?
Ah bah c'était le français, c'était les langues, c'était l'histoire, c'était les arts plastiques, c'était voilà tout ce qui était ce qu'on appelait littéraire, voilà toute cette frange là. Et puis par contre effectivement j'étais une réelle catastrophe en matière scientifique, quoi. En fait, je voulais comprendre. J'avais vraiment une volonté de comprendre, mais ouais, il y a un câblage qui voilà qui se réalise pas dans ma tête. C'est comme ça.
Donc j'imagine que tu t'orientes plus vers des études littéraires, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais. Ben déjà au lycée, j'étais en option cinéma et photo, et donc j'ai passé un bac cinéma, et puis ensuite je me suis dirigée vers une faculté de droit.
Ah ouais.
Ce qui n'avait rien à voir avec avec le cinoche, quoique. Les avocats sont de très bons comédiens, mais non, ouais, c'est vrai que j'ai commencé par des études de droit.
Tu voulais avoir un métier.
Bah, disons que j'étais un peu, j'étais assez engagée en fait et assez passionnée par la politique surtout. Et du coup, moi, c'était un peu ma porte d'entrée que je fantasmais potentiellement pour effectivement. Faire un métier qui est attrait à tout ça, soit avocate effectivement, ou soit voilà, soit m'engager dans la vie publique plus généralement, quoi. Voilà.
Ok. C'était...
Et ça n'a pas duré forcément très longtemps, puisque la musique m'a entre guillemets rattrapée à ce moment-là, quand j'étais en train de faire mes études.
Mais c'était quoi ton envie ? Tu voulais t'engager dans la vie publique ? Tu voulais, je sais pas, devenir élue ? T'avais...
Ouais, ouais, c'était okay. C'était un peu ça, quoi. J'étais une jeune femme. Enfin bon, je le suis toujours, mais maintenant beaucoup moins sur le terrain. Mais j'ai été militante pendant quelques années. Et j'ai quasi voilà donné tout mon temps à ça, ouais, pendant plusieurs années. C'est quelque chose qui voilà qui était très très important pour moi et qui a pris le pas, hein, d'ailleurs un peu voilà sur tu vois le travail que je devais faire dans mes études, puisque
c'était militante pour engager pourquoi
j'étais syndicaliste dans un syndicat étudiant.
Okay.
Enfin militante quoi, voilà. Et voilà, c'était pour l'égalité sociale, l'égalité des chances dans le milieu étudiant. Donc c'était très centré sur notre vie étudiante, et c'est ça que j'aimais dans le militantisme, c'est que du coup tu peux vraiment agir sur le quotidien. On n'est pas dans les grandes promesses. Voilà, c'est ouais. Un truc vraiment assez concret. Et,
de terrain, quoi.
Ouais, de terrain. Mmh. Et je crois qu'il y a. Enfin, je ne dirais pas qu'il n'y a que ça de vrai, parce qu'il faut être aussi, je pense, porté par des visions, des rêves, etc. Mais quand même, l'action de terrain, ça reste une très, très bonne option.
Il faut savoir faire les deux, j'imagine, je crois.
Ouais,
il faut
peut-être.
Être capable de. Je ne sais pas, moi, mais. J'imagine que tu as à la fois l'aspect vision et puis après, il faut réussir à la mettre en œuvre sur le terrain.
C'est toute la difficulté, ouais.
Mmh. Ok. Et ton objectif, c'était vraiment, à un moment donné, tu t'es dit, ok, moi, je voudrais faire une carrière de ça. C'est hyper intéressant.
À un moment donné, je me suis effectivement projetée là-dedans. Et à la fois, je sentais aussi que j'étais un peu en décalage avec ce milieu-là. Qui est quand même un milieu très dur, il faut le dire.
Très dur dans quel sens ?
Dans le sens où, après, c'est un peu comme le monde de l'entreprise et tout. Hein, je veux dire, tous les milieux ont leurs défauts, etc. Mais c'est un milieu où il y a quand même beaucoup d'ego, beaucoup de compétition, beaucoup de... de choses qui font que les gens, finalement... pas tous les gens, mais quelques personnes ne sont pas forcément là pour les bonnes raisons. Et ça, c'est un truc qui m'a un peu, petit à petit, on va dire, détaché du... Plus j'avançais, en fait, et plus j'avais ce constat-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai fini par un petit peu m'éloigner de tout ça, quoi. Parallèle et en commençant vraiment à faire de la musique. Voilà.
Le bénévolat, est jamais gratuit, je crois. Non, mais c'est vrai, les gens donnent de leur temps, mais ils attendent quelque chose... en retour, que ce soit d'une manière ou d'une autre.
Ouais, enfin de constater peut-être des avancées, etc. Mais c'est vrai que... Non, je te rejoins et à la fois non, parce que moi je sais que je me suis toujours engagée et quand je continue à le faire, j'attends pas qu'on me dise merci, quoi.
Ouais.
Il y a un moment, tu te dévoues pour quelque chose, on n'est pas là pour recevoir des médailles, on est là juste... Puis la médaille, c'est d'avoir fait avancer concrètement une cause et de le savoir intimement que c'est dû à la petite pierre qu'on aura posée, ouais. À l'édifice, quoi. Et justement, c'est... Je trouve que les intentions qui sont honnêtes et profondes, c'est celles qui sont sans aucun, aucune arrière-pensée, aucune attente.
Toujours, tu continues à faire de la musique à l'époque ou
parallèlement à ça, du coup, j'écrivais mes premiers textes. Et c'est là que j'ai commencé à prendre une guitare, en fait, à cette époque-là, quand j'avais 16, 17, 18 ans.
Tu faisais toujours du violon ou t'avais...
Non, j'avais zappé, j'avais arrêté complètement... je crois, au bout de ma huitième année, parce que j'étais...
adolescente.
Ado, exactement. Et il y a eu une scission entre l'instrument et moi, quoi. Et surtout, tu sais, c'est... Voilà, t'arrives au collège, t'as envie de t'éclater le soir avec tes potes. Et puis, non, il faut faire une heure de solfège, une heure de pratique, etc. Et ça, tous les jours. Donc, c'est... En fait, finalement, ça devient un peu lourd à porter, je pense, quand t'es dans une période où t'as juste envie de... t'amuser, entre guillemets.
Parce que t'étais dans un... au conservatoire, c'est ça?
J'étais dans un conservatoire.
T'étais dans un truc un peu dans une filière un peu exigeante, j'imagine.
En fait, dès que t'es au conservatoire, ça demande un travail parce que t'as comme des sortes de contrôles toutes les semaines. T'as des comptes à rendre, des morceaux à apprendre, et si t'arrives le samedi que c'est pas fait, t'es en plus en cours, particulier, quoi, avec tes profs, avec ma prof d'alto, en l'occurrence, donc tu peux pas espérer que ça tombe sur quelqu'un d'autre dans la classe, parce que c'est forcément sur toi que, voilà. Donc, non, mais tout ça était devenu un petit peu, et puis je ressentais pas... une passion pour la pratique de cet instrument. C'était devenu plus un poids, en fait, que qu'autre chose. Donc j'ai fini par lâcher et en réaction, du coup, il y avait une guitare qui traînait chez moi, une guitare classique qui appartenait à ma mère, même si elle jouait pas du tout de guitare, quoi. C'était une guitare de
voilà, décoration.
De déco, on va dire, ouais, mais une vraie, mais voilà. Et puis j'ai fini par la prendre et à gratouiller mes premiers accords, quoi, toute seule, en apprenant vraiment toute seule, sans tuto YouTube, parce qu'à l'époque, je sais même pas s'il y avait des tutos YouTube. Et voilà. Et j'ai commencé par apprendre quelques reprises, quoi, que des potes avaient joué et qui m'ont montré.
Jeux interdits.
Ah ouais, exactement. Enfin, genre, des trucs comme Ben Harper, Nirvana. Enfin, ouais. La base, quoi, tu vois. Le premier truc que t'apprends. Et voilà. Et en fait, très, très rapidement, dès que j'ai maîtrisé, tu vois, les premiers accords, moi, je me suis tout de suite mise à jouer en arpège, en fait. Et donc, j'ai tout de suite commencé, en fait, à mettre les textes que j'écrivais en musique.
Mais il est où le pont dans ta tête à ce moment-là de... Non, mais c'est vrai, tu vois, d'une ado, tu vois, je t'imagine 16-17 ans, c'est ça?
Ouais.
T'es en train d'écrire, t'as des trucs que t'écris à côté, tu te dis tiens, en fait je vais en faire des musiques.
Ouais, c'est assez strange, enfin, c'est assez bizarre, j'avoue que je me suis jamais trop posé la question de ce pont. C'était ultra évident que j'avais... Alors, soit c'est que, en fait, oui, ici, je pense que le déclic s'est fait quand j'ai réussi à chanter accompagné d'une guitare, parce que ça c'est encore, tu peux jouer les guitares, mais après pour désynchroniser en fait ton chant de tes doigts, c'est encore un autre truc, quoi. Et du coup, quand j'ai réussi à faire ça sur une reprise, ça m'a procuré une telle joie, un tel plaisir, quoi, que j'étais en train de chanter en boucle, je sais plus, Ben Harper, je crois, Walk Away, elle s'appelle. Et voilà, et donc je pense que tout simplement j'ai ressenti une joie intense et je me suis dit je veux faire pareil mais avec ma sauce, quoi. Donc voilà, donc ça s'est passé assez rapidement, quoi. J'ai vraiment appris la guitare en même temps que j'apprenais à écrire, en même temps que tout, quoi. En même temps que j'apprenais à chanter aussi, parce que bah, j'avais jamais chanté vraiment de ma vie, quoi, tu vois. À part un peu comme tout le monde, je veux dire. Tout le monde chante plus ou moins, quoi, sous la douche. Mais ouais, j'avais jamais nourri d'envie particulière, tu vois, d'être chanteuse ou quoi. C'était pas du tout un truc qui m'intéressait.
Ça me fascine toujours, tu vois, ce truc à un moment donné de te dire tiens, il y a un truc qui t'appelle là, tu vois, alors que t'as pas forcément de modèle autour de toi ou tu vois, enfin, t'as ta mère qui chantait.
Oui, mais alors.
T'avais voulu mettre à distance.
C'est plutôt si pas. Ouais. Non, mais elle va me détester si je dis ça. Non, mais c'est vrai que. Et puis elle, c'est un. Tu vois, le chant en chorale et tout, c'est encore différent. C'est un chant collectif. Bah, tu composes pas, hein. Tu chantes ce qui est déjà écrit depuis des siècles, etc. Donc, c'est. Ouais, non, c'est vraiment à l'opposé, quoi. La démarche intime, tu vois, d'écrire pour soi. D'autant plus que j'avais aucune. Tu vois, perspective. J'étais dans ma petite chambre en banlieue. Voilà, quoi, à faire mes petites chansons, je connaissais personne de la musique, je connaissais rien à comment ça marchait, ni même comment s'enregistrer, ce genre de choses, quoi, quand j'ai commencé, bah, enfin bon, comme tout le monde en même temps. Mais voilà, j'ai été appelée, je trouve que c'est un joli mot, ouais. C'est un peu comme ça que je ressens, en tout cas.
Ouais, c'est fou, tu vois, entre l'idée de te dire, bon, bah, ok, t'écris des textes dans ton carnet intime, dans ton journal intime, et de te dire, bon, en fait, je veux en faire des chansons avec des rimes, etc. Enfin, comment tu trouves, c'est pareil, la façon de construire une chanson, enfin, c'est ouf, non ?
Ça, c'est une bonne question. Bah, ouais, mais d'ailleurs, je me rappelle, justement, mes premières chansons étaient très, très déconstruites, quoi. Il y avait des structures, mais elles faisaient 8 minutes, ça changeait 12 fois de partition, etc. Donc c'est oui bah ça s'apprend sur le tard, quoi, enfin sur le tas surtout.
Sur le tas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment ça se passe aussi, je sais pas, le moment entre le moment où tu décides d'écrire pour toi et de te dire ok, bah, je vais aussi gratouiller et commencer à chanter, jusqu'au moment où tu commences à chanter à des copains, j'imagine, ou tu commences à chanter plus que pour toi, j'imagine, et que tu commences à chanter pour des gens.
Ouais, alors cette bascule là Du coup, j'avais un pote qui s'appelle Pookie. Pookie. Et
salut Pookie.
Salut Pookie. Bah, c'est lui qui m'a un peu mise à, tu vois, à la guitare, qui m'a montré les premiers accords de Nirvana. et donc, je crois que j'ai chanté, j'ai dû chanter devant lui, en fait, pour la première fois, dans la chambre, tu vois, et lui montrer comment je chantais la reprise. Et voilà, il a dû me faire genre un compliment, je sais plus trop quoi, mais en me disant waouh, putain, c'est un peu émotionnel quoi. Et ensuite, j'ai écrit mes premiers titres que je suis allée défendre dans des bars en fait. Je traînais pas mal du côté du canal Saint-Martin à l'époque. Et donc il y avait un bar qui s'appelle chez Adèle, qui fait le coin sur le canal. Et un jour j'étais tombée sur une sorte d'open mic en fait le dimanche quoi qu'il faisait là-bas. Et du coup je m'étais dit bon pourquoi pas tu vois. Et en fait tu faisais ta chanson et puis tu faisais passer le chapeau ensuite quoi. Et du coup c'est comme ça quoi. J'imagine que je lui ai demandé ouais est-ce que genre la semaine prochaine je peux venir chanter mes trois chansons et voilà et je suis allée là comme ça et donc bah du coup dans ce bar il y a son père en fait mais genre t'as trois mecs du quartier et donc j'avais convié ma maman mes parents j'imagine voilà mon frère une copine et voilà. Et c'est tout, quoi. Et j'avais chanté devant, 6-7 personnes, tu vois. Et j'avais fait le chapeau à ma mère, quoi, qui est, bon, bien entendu, bien gentille. M'avait filé un petit billet, quoi, tu vois, histoire de m'encourager. Mais voilà, mais en fait, c'est ça. Et j'ai fait ça plusieurs fois, quoi. Ouais, plusieurs fois.
T'avais quel âge? Donc, t'avais, c'est ça, 16,
j'avais,
17 ans
Ça, c'était, ouais, j'avais 17-18 ans.
Waouh. Et en fait, tu le fais pour te marrer, c'est ça, à l'époque ou alors
Ah, mais ça me faisait pas du tout marrer. Mais alors, pas du tout.
Tu foutais la trouille.
Ah ouais.
Mais pourquoi tu le faisais alors?
Mais c'est toujours pareil. C'est la même question, si tu veux, que j'ai pas résolue 15 ans après, en fait. C'est avant de monter sur scène, pourquoi je suis là, quoi. Enfin, c'est... Voilà.
T'es toujours là-dedans aujourd'hui?
Ah ouais. Bah ouais. Donc, c'est un truc qui te pousse, quoi. T'as envie d'aller chanter tes chansons, pourtant ça te met dans un état super anxieux, de trouille, panique, tout ce que tu veux. Et à la fois, je sais pas, t'es poussé. Donc, tu le fais, quoi. Voilà.
Et une fois que, aujourd'hui, j'imagine, est-ce que une fois que tu passes le cap et que tu commences à chanter, la trouille disparaît?
Elle finit par disparaître, ouais, okay. Effectivement. Elle finit par disparaître et si je sens que voilà, je suis à l'aise avec le public et que tout se passe bien en fait, en gros, qu'il y a une bonne ambiance et tout, généralement ouais, elle s'évapore et on n'y pense même plus en fait. On est porté par l'adrénaline du moment et tout. Par contre, s'il y a des pépins et tout, le stress peut revenir. Tu vois, en plein milieu d'un concert, quoi, par exemple.
Si encore aujourd'hui, quoi. C'est,
ouais,
t'es,
ouais, bah
t'es
oui,
toujours traqueuse à ce point-là.
Ah
et...
ouais.
Ok.
Mais je crois que, enfin, tu sais, enfin, je sais pas d'ailleurs, mais je connais peu d'artistes qui n'ont plus le trac du tout, quoi. Et je crois d'ailleurs quand tu commences à plus du tout avoir le trac, c'est mauvais signe, c'est qu'il faut changer de métier, quoi.
Ouais, je suis d'accord. J'avais interviewé Château Brutal, je ne sais pas si tu connais, qui fait partie des Hernadettes, qui a écrit un bouquin sur le track justement, où il a été recueillir, je ne sais plus combien, 50 avis d'artistes, mais aussi tu vois, de performeurs, de gens qui performent d'une manière générale, et qui racontaient, en fait, dans les détails même, tu vois, ce que ça fait faire le track aux gens. Et bon, c'est parfois fleuri, quoi, tu vois, mais je trouve que c'est hyper important aussi de venir le raconter, tu vois. Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode parce que comme ça les gens pourront aller l'écouter s'ils veulent, mais c'est vrai que ça, c'est hyper important, je trouve, de désacraliser le track. Et tu vois, je t'entends dire ok, 15 piges plus tard, je suis toujours la petite gamine de 17 ans qui est là, ah, mais pourquoi je suis là? Je trouve ça fascinant, et en même temps c'est vrai ça, pourquoi tu continues à le faire, quoi.
Bah ouais, c'est une question à laquelle je crois qu'en fait on obtient la réponse une fois qu'on est sur scène, tu vois. Puisque la question s'évapore dès les premières notes que tu chantes. Mais il y a ce sorte de vortex effectivement de l'heure d'avant en fait qui est qui t'aspirent, quoi. Voilà, alors parfois plus ou moins, tu vois, selon les contextes. Mais ouais, il y a toujours cette petite question, le petit diable sur l'épaule qui est là, mais pourquoi faire ça ?
Pourquoi ne pas être avocate ?
C'est ça, ou pourquoi Non, mais c'est vrai. Et à la fois, bon, bah, c'est quand même une chance de ouf, tu vois, de monter sur scène. Voilà, mais... je crois aussi que c'est parce que c'est tellement irréel, quoi. Je crois qu'on interroge en fait jamais assez, genre la force qu'il faut avoir pour monter sur scène, quoi. Parce que monter sur scène, bon, alors pour certaines personnes c'est tout à fait naturel, mais je pense que pour 90% des gens, artistes, c'est si tu veux, c'est la continuité de leur métier, mais c'est pas quelque chose d'inné, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui s'apprivoise. Donc je pense que le track vient en partie du fait que c'est beaucoup d'amour, mais à la fois c'est une tornade assez violente aussi, quoi.
Voilà. Mais de toute façon, enfin, j'imagine que ça n'a ni queue ni tête d'un pur point de vue humain, tu vois, de se retrouver ne serait-ce qu'avec 6 ou 7 paires d'yeux braqués sur toi à t'entendre chanter, ou alors si tu fais un zénith ou un truc comme ça, ouais, où il y a beaucoup plus de monde, ça n'a aucun sens, ouais, fondamentalement.
Non, ça n'a aucun sens, mais moi, c'est, parfois, c'est ça qui m'aide à relativiser, hein. Tu vois, là, il y a quelques mois, enfin, il y a 2 mois, Julien Doré m'a invité à ouvrir son Accor Arena. Du coup, là, c'est donc 16 000 perdus. et en fait, tu vois, je sentais le track monter, hein, forcément. T'es dans une salle mythique, tout pour un grand artiste et tout. Et j'étais assez heureuse parce que justement, en fait, ce qui m'a complètement fait redescendre, et du coup, fait que prendre le bon côté des choses, c'est que je me suis dit, mais c'est un non-sens, quoi. Enfin, vraiment, c'est irréel, c'est dingue, en fait, quoi. Et ça va se passer. Voilà. Donc, souvent, cette phrase que je me dis, c'est de toute manière, ça va arriver. Donc, il ne sert à rien de trop angoisser.
Et t'arrives à prendre du plaisir comme ça quand tu te retrouves devant 16 000 personnes à la Accor Arena? En revanche, tu kiffes quand même?
Ah ouais, ouais.
Okay.
Enfin, clairement, c'est une telle dose de, tu vois, d'adrénaline, de retour, d'applaudissements, de folie, quoi, de grandeur, en fait, quoi. Donc c'est génial, en fait, de voir comment, parce que tu sens vraiment, tu vois, ces 16 000 personnes, ouais, mais cette foule, tu vois, c'est comme si elle avait une seule et même âme quand t'arrives à les... faire qu'ils s'emportent tous en même temps, etc. Quand tu sens que la mayonnaise prend, quoi, c'est magique, quoi, ces moments-là. Ouais. C'est assez indescriptible.
Oui, je crois que c'est tant que tu l'as pas vécu et que tu te retrouves pas sur scène.
Ça booste de ouf. Ouais.
Ne serait-ce que visuellement, ça doit être taré.
Ouais.
En plus, j'imagine en termes d'émotion d'entendre tous ces gens qui hurlent, ça doit être complètement fou. Est-ce que tu veux bien qu'on revienne à ta
à ta
vie de jeune étudiante syndicaliste où tu me disais que tu as été rattrapée par la musique, ouais, à ce moment-là? C'est-à-dire que tu as quoi, 20 ans à l'époque, c'est ça?
Ouais, je dirais 18 ans, ouais, plutôt.
Qu'est-ce qui fait que la musique te rattrape?
Qu'est-ce qui fait que la musique me rattrape? Bah, du coup, je faisais ces petits concerts improvisés sur le canal. Et je me suis mise à répéter, en fait, dans un studio de répétition en banlieue, où j'ai rencontré un mec qui était là, qui bossait là-bas, et qui était ingénieur du son. Et donc, il m'aidait à faire mon son quand j'étais en répétition, quoi. Et puis, il me dit « Ah, mais t'as tes chansons ?» Et puis, on commence à faire connaissance. Et il me dit « J'ai un studio, si tu veux, si t'as tes vraies chansons, on peut les enregistrer, quoi. » Et tranquille, tu vois, juste maquette, mais... Ça, de toute manière, c'était beaucoup plus propre que ce que moi, j'arrivais à faire toute seule chez moi. Donc, j'ai dit OK, voilà. Et donc, du coup, on est allé chez lui, on a produit donc un premier titre. Et c'était à l'époque de MySpace. Et donc, du coup, j'ai mis ce titre sur les internets. Et très, très rapidement, en fait, il y a un manager qui m'a contacté et qui était l'agent d'un artiste que j'aimais beaucoup à l'époque qui s'appelle Peter Van Peul. un Suédois. Et,
super.
Ouais, dont j'adore voilà, le travail, quoi. Et donc, il m'a dit, ah, sympa ton morceau, est-ce que ça dit qu'on, voilà, qu'on se rencontre, j'aime ton univers. Bon, il y avait qu'un morceau, donc ok.
C'était en anglais.
Ouais. Okay. C'était mon premier titre en anglais qui s'appelait Fading Away, et qui était une balade. Et donc, du coup, on s'est rencontrés. Le courant est bien passé et il m'a dit, est-ce que tu as d'autres titres? Et donc, j'ai répondu oui, ce qui était... pas vraiment vrai. Et il m'a dit, ah, tu peux me le faire écouter. J'ai dit, ouais, tranquille, dans deux semaines, tranquille. Et du coup, bah, je suis rentrée chez moi et je te laisse imaginer la panique parce que, voilà, il a fallu en 15 jours que, voilà, que j'écrive genre 5, 6, je sais même plus combien j'en ai fait, une petite dizaine, quoi. Et voilà, et que, bah, forcément, tu vois, avec des structures complètement sans queue ni tête, voilà. Et pour arriver à ce fameux rendez-vous de 10 jours après où je lui ai présenté les titres. D'ailleurs, c'était des titres que je lui ai chantés en studio de répétition parce que j'avais pas forcément eu le temps de
bien
les enregistrer. Voilà. Mmh. Donc c'était plus en studio de répète que je lui ai interprété les trucs, quoi. J'arrivais quasi pas d'ailleurs à terminer les titres, en fait, tellement j'étais, comment on dit, flippée.
Stressée,
ouais. Ouais. Mmh. J'avais un track mais d'enfer, et c'est là aussi que j'ai eu le déclic. C'est, j'ai eu vraiment le sentiment genre interne que j'étais en train de jouer ma vie, je sais pas comment expliquer, alors que c'était juste un mec, tu vois, comme il y en a enfin pas 300 000 à Paris non plus, mais
ouais.
Enfin, je veux dire, c'est voilà, manager, il y en a quand même quelques-uns,
c'est une
tu
opportunité
vois, à Paris,
comme
mais,
une autre,
ouais, c'est vrai que je sais pas, j'ai ressenti un truc très fort interne de waouh, il y a c'est maintenant pour toi, quoi. Et donc voilà. Et donc bah forcément, j'ai été absolument pitoyable sur cette répétition. Le pauvre, il était confus pour moi. Il a eu trop pitié de moi, quoi. Et donc voilà. Mais finalement, il m'a quand même dit, écoute, il y a du boulot, ma petite, mais on va travailler et c'est cool. On
il
commence à travailler ensemble.
Il a perçu le potentiel, quoi.
Peut-être. ouais, j'imagine. Sinon, il se serait
bah
pas
oui.
fatigué.
C'est ça.
Donc voilà, quoi. Et puis après, ça, je crois que 3 semaines après, je faisais ma première date. En fait, il m'avait booké à la Maroquinerie à Paris, en ouverture d'un groupe américain en plus qui faisait du rock. Enfin, moi, j'étais très folk et tout. Et voilà. Et donc,
jeté dans le grand bain.
Ah ouais, voilà. Là, je passais effectivement de 3 personnes, tu vois, qui sont en train de boire leur café, à une Maroc. Pleine à craquer puisqu'elle était complète. En première partie, donc... non, en première partie, parce qu'il y avait 2 premières parties, donc j'ouvrais vraiment le bal. Et voilà, et donc c'est... C'était spé.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est spécial parce que moi, j'étais d'une timidité incroyable. J'avais un stress pas possible, et à l'époque, en fait, j'étais en guitare et puis je m'accompagnais ce qu'on appelle un looper, donc c'est une pédale, c'est qui te permet de t'enregistrer. Mmh. Et puis j'enregistrais donc ma voix en boucle, puis des rythmiques et des guitares en boucle. Donc
c'est un peu technique, quoi. C'est...
Ouais, il fallait être carré, ouais. Quoi, parce que sinon tu te foires sur une boucle et ta chanson c'est fini, quoi.
Ouais.
Mais ça va. Enfin, j'avais pas trop de soucis avec ça, mais c'est vrai que en fait, j'avais le même rapport sur scène que celui que j'avais en réalité, c'est-à-dire que pour moi, j'étais dans ma chambre. Donc oui, il y avait ce public, etc. Mais j'ai mis énormément d'années à me tourner vers le public, quoi. J'ai passé énormément d'années sur scène à être entre moi et moi, quoi. Et à pas trop... c'est pas une question de considération ou quoi, mais c'est une question de, je pense, d'ouverture et d'alignement, tu vois. Et ça, je l'ai eu assez récemment, finalement, quoi. C'était un truc tellement aussi intime, je crois. C'était des chansons vraiment de chambre, tu vois, que je faisais. Et donc, je les interprétais comme ça, du coup.
Juste pour toi, entre toi et toi, quoi.
Ouais. Voilà. Si j'avais pu, d'ailleurs, ne pas faire de concert, je pense que je m'en serais passé, quoi, à l'époque.
Ouais,
ouais. Ouais. Bah oui.
Ça fait partie du métier quelque part. T'es obligé d'aller.
Bien sûr, t'es obligé à la fois. Tu vois, ça m'a un peu détendu parce que plus tard, tu vois, j'ai pu voir jouer. Enfin, je sais pas, des personnes comme Cat Power, par exemple. qui parfois, tu vois, était là, juste pas envie d'être sur scène ce soir ou chanter dos au public, etc. Parce que c'est
Cat Power, vois, elle chante dos au public.
Mais il me semblait qu'il y avait eu un truc comme ça où effectivement elle avait un peu, je sais pas, mal supporté, et qu'elle s'était un petit peu tournée. Et voilà, parce qu'en fait, je sais pas, je pense que parfois.
Il y a des jours où t'as pas envie, quoi.
Ouais.
Et c'est terrible parce que t'es obligé de monter sur scène, il y a plein de gens qui ont payé pour venir te voir.
Ah ouais, là en l'occurrence pour Cat Power, oui, c'était déjà une star à l'époque. Moi, tout le monde s'en foutait. Hein. Donc, j'aurais pu chanter derrière, je sais pas quoi. Non, mais c'est. Ouais, l'exercice de scène, c'est. C'est tout un truc.
C'est quoi le déclic qui s'est passé pour toi entre le moment où tu te dis j'étais pas ouverte au public et il y a eu un déclic pour toi, il y a eu un truc
Oui, il y a eu un truc assez significatif, c'est quand j'ai basculé en français. Voilà. Donc j'ai chanté à peu près de 2006 à 2017 en anglais et en 2017 j'ai sorti mon premier EP en français. Et ça a tout changé en fait dans comment je m'exprime et le fait d'être comprise de manière directe a aussi changé. Donc j'ai vu, tu vois, l'impact que pouvait avoir mes paroles, ma voix et tout sur.
Qu'est-ce qui t'a incité à chanter en anglais au premier abord? Parce que c'était plus fluide pour toi, c'était plus simple.
Plus fluide parce que j'adore cette langue que je traînais beaucoup à Londres, etc. Que j'avais beaucoup de potes américains et anglais et aussi et surtout parce que c'est ma culture musicale, ça a toujours été ça quoi. Donc j'ai toujours écouté des groupes en anglais, de la folk, tu vois, américaine, du rock anglais, donc c'était complètement naturel pour moi de m'exprimer de chanter en anglais en tout cas, parce que je m'imaginais pas du tout, tu vois, gratter une guitare et chanter en français, c'était assez bizarre. Même si dans les premiers textes que j'ai écrits, genre quand j'avais 16 ans, il y avait quand même quelques textes en français. Mais très vite, tu vois, quand j'ai dû enregistrer cette première chanson là avec cet ingénieur du son que j'avais rencontré, bizarrement, j'ai direct switché en anglais. Voilà. Et après, ça n'a plus discontinué, quoi. Je suis restée 10 ans en anglais.
C'est vrai que je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chanteuses, il n'y avait pas beaucoup de pop en français, en fait. Les chanteuses, les chanteurs français, les chanteurs et les chanteuses
français.
C'était
pas du tout un truc à la mode. C'était assez mal, pas mal vu, mais c'était pas à la mode du tout. Pas à la mode du tout. C'est vrai que quand j'ai commencé à chanter en anglais et puis du coup à connaître un petit peu des artistes à Paris et tout, on chantait tous en anglais.
Tous.
Ouais. Et puis il y a eu un basculement, je sais plus quand c'était, mais.
Il n'y a pas eu un truc, je me demande si tu sais, les quotas, c'est à ce moment-là que les quotas en radio sont arrivés en disant on est obligé de passer X% de morceaux en français.
Ah ouais. Et qui est un tu peu. Tu penses que c'est relié? Écoute, je ne sais pas si les mecs ils ont.
Je ne sais pas, mais je me souviens moi d'une période où je connaissais quelques chanteurs, tu vois, qui chantaient en anglais et ils me disaient nous ça nous a un peu incité à mettre le doigt dedans, à regarder, à se dire, OK, comment on pourrait faire? Enfin, tu vois, ne serait-ce que, parce qu'à un moment donné, le label, il dit, pour passer en radio maintenant, ça serait plus simple de chanter en français. Peut-être que vous pourriez essayer, etc., tu vois. Je sais pas si c'est ton cas à toi.
Écoute, mais... non, moi, mon cas, déjà, c'était bien plus tard que cette histoire de quota, donc, non, moi, c'est plus fait sur une petite phrase que m'avait lancée un garçon avec qui je travaillais, qui j'avais fait écouter mes titres en anglais, et qui m'a dit pourquoi tu chantes pas en français, ça pourrait être bien. Puis ça m'a un peu vexée parce que je venais de lui faire écouter un disque en anglais, donc que je venais de terminer, donc j'étais là, quand même t'exagères. Et je suis rentrée chez moi un peu piqué. Et donc j'ai allumé le piano et je me suis mise à pianoter, ce que je n'avais... En fait, j'avais une sorte de clavier-mètre, si tu veux, pour lequel je me servais pour mes arrangements, mais je jouais jamais du piano, j'étais à la guitare encore à l'époque, en anglais, je faisais que de la guitare à l'époque. Et puis j'ai commencé à mettre mes doigts vraiment au hasard sur le piano, quoi, à essayer de faire des accords, et puis quand ça sonnait bien, je disais je garde. Et j'ai commencé à chanter par-dessus ce que j'étais en train de faire ce soir-là. Et j'ai commencé à... malgré mon entre guillemets, je savais pas ce que j'étais en train de faire, tu vois. C'était... En fait, à la base, je voulais vraiment juste faire une blague pour ce mec et lui faire comprendre que non, l'anglais, c'était vraiment mieux, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire des palmiers en hiver, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire, tu vois. Enfin, vraiment, je voulais faire des très mauvaises paroles et tout. Et en fait, j'ai commencé à écrire ces paroles et à chanter. Et voilà, et du coup, je me suis surprise... en même temps que j'étais en train de faire ce truc, genre justement pour montrer à quel point j'avais raison, tu vois, d'être en anglais, que c'était génial et tout. Et ben en fait, genre ça m'a cueilli, quoi. Vraiment. Et du coup, ça a donné cette chanson qui s'appelle Palmier en hiver, qui est sur mon premier EP, du coup. Et voilà, et je me suis prise au jeu, je me suis dit, tiens, c'est dingue, je chantais différemment, j'écrivais différemment, forcément, je produisais différemment mes compositions, et ça a été une respiration folle, quoi. Et depuis, j'ai... Voilà.
T'as décidé de...
Bah ouais, du coup, j'ai complètement switché. De plus revenir en arrière. Ouais, je suis passée en français sur une... j'avais l'intention de faire une blague, et puis résultat, voilà, j'ai fait des albums. Mais ouais, non, c'est marrant.
Est-ce que ça marque aussi, j'imagine, un gros tournant dans ta carrière? Parce que, comme tu dis, ça permet aux gens de pouvoir te comprendre.
Ah bah, c'est sûr que
j'ai pas
du tout le même retour.
C'est nul avec l'anglais, en plus. Globalement, hein.
Ouais, enfin moi, je vais pas dire ça parce que sinon.
Non, mais c'est vrai qu'on
on va se faire bâcher. Mais...
Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas. Enfin, on n'a pas cette culture de la langue anglaise depuis le plus jeune âge, même si ça commence à venir.
Ça, c'est sûr,
chez les
c'est
plus
comme.
Jeunes.
Tu vois, enfin, moi, j'ai pas mal traîné au Danemark, tu vois, par exemple, les Danois, ils sont complètement bilingues anglais. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop ça, quoi. Donc, tu baragouines des trucs, mais c'est vrai que si tu t'intéresses pas, si tu fais pas l'effort d'eux, tu peux pas être naturellement, entre guillemets, bilingue, comme dans les pays nordiques, par exemple. Mais, du coup, j'ai perdu le fil de ta question. Ah oui, donc c'est que, en fait, c'est vrai que c'est un tremblement de terre, quoi, quand tu te rends compte qu'on comprend enfin ce que tu dis. Et que t'as passé 10 ans à chanter des chansons qui parlaient d'amour, pour moi dans ma tête c'était les mêmes images que j'employais, la même écriture, tu vois, je mettais le même travail, la même précision dans mes textes en anglais. Mais là, du coup, que ce soit en français et que mes amis, les premiers amis à qui j'ai fait écouter Palmier justement. Tu te retournes, ta pote a pas parlé pendant 3 minutes, et puis elle a les larmes aux yeux quand tu te retournes. Bon, enfin, en fait, j'avais jamais eu cette réaction-là, tu vois, par exemple, sur les plus tristes chansons, ouais. Tu vois, en anglais que j'avais pu écrire. Parce que, en fait, je crois que, au-delà de la musique, il y a le vecteur langage qui est genre, qui change tout, en fait. Voilà.
C'était pas une façon pour toi, tu crois, quand t'étais plus jeune, de dire des choses, mais de les cacher en même temps?
Non, parce que j'étais quand même très crue et très directe.
Mais comme on ne comprenait pas, si tu veux.
Ouais, mais à la fois, j'avais aussi, toute cette clique de potes qui comprenaient.
Ouais, c'est sûr.
Donc, j'ai jamais été trop dans le truc. Je me cache derrière la langue, c'est plus simple de dire I miss you, que tu me manques. Non, franchement, je réfléchis même pas à ça.
Okay.
Je crois. Non.
Ceci dit, j'imagine que sur scène, de ce fait-là, l'effet était pas le même, quoi.
Quoi, voilà. Tu vois, les gens, ils pouvaient dire, elle est jolie cette mélodie, hein, tu vois, voilà. Mais ils vont pas te dire, tiens, putain, telle image, c'est pas mal et tout. Là où, effectivement, quand tu passes en français, t'as quand même plus de chances d'avoir des retours sur tes textes que, que le contraire.
Donc tu disais, ouais, c'est ton deuxième album,
en
c'est
français,
ça
ouais.
En français,
ouais.
Qu'est-ce qui t'a... C'est un album que t'as écrit entre deux confinements, c'est ça?
Exactement, ouais. J'ai commencé à l'écrire en janvier 2021.
Ouais.
Voilà. Après, j'avais passé un an, du coup, un peu en PLS créatif, quoi.
Parce que ton album d'avant, si je me trompe pas, tu le sors...
Trois mois avant le Covid.
Donc j'imagine que t'as pas vraiment pu le
Non, on
le
a pas pu
vivre.
Le défendre comme il aurait dû, tu vois, être défendu. Et donc, ouais, tout s'est arrêté, bah, comme pour tout le monde, du jour au lendemain. Et suite à ça, tu sais, enfin, on était un peu dans une incertitude, donc on savait pas si ça allait partir, repartir, s'arrêter, machin. Et du coup, en fait, c'est vrai que j'ai été assez optimiste, entre guillemets, pendant quelques mois, parce que je me disais, bon, ça va finir par s'arranger. Puis, bah, il y a un moment, j'ai pris conscience que, même si ça s'arrangeait, de toute façon, il était trop tard, tu vois, pour revenir, tu vois, sur le devant de la scène avec cet objet-là. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, ma petite, faut ouvrir une autre porte et commencer à composer un autre disque.
Comment tu le vis, toi, le fait de se dire, ok, bah, je lance, j'ai écrit mon premier album en français à l'époque. J'imagine que tu le fais vivre pendant 3 mois et puis après, ça s'arrête. Mmh. Je sais pas, il y a pas un truc qui te fait dire oh bah merde alors.
Bah c'est sûr. En fait, je pense que de manière interne, je pense que j'ai été assez abattue, mais sans vouloir me l'avouer forcément. Et d'ailleurs, c'était pour ça aussi, je pense que quelque part, toute cette période de confinement, etc. Je sais que pour certains artistes, par exemple, ça a été ultra créatif, tu vois. Mais moi, ça m'a complètement laissée dans une sorte de léthargie. J'avais pas envie de, j'y étais pas quoi, tu vois, je pense que c'était une forme de tristesse aussi quoi, de voilà, d'admettre que le disque irait pas là où j'ambitionnais qu'il aille quoi. Et voilà, après une fois que je me suis dit bon, et d'ailleurs c'est moi qui ai appelé mon label en disant bon, stop, enfin genre s'il vous plaît, disons-nous que on recommence une nouvelle page, et si c'est oui, je commence à écrire et je me mets dans une dynamique. Mais j'avais vraiment besoin se dire bon allez, huit, on met un stop et on ouvre une autre page quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à tâtonner quoi, tu vois, pendant quelques mois, pas avoir trop d'inspi, etc. Et puis j'ai écrit le premier titre que j'ai écrit pour ce disque, et à partir de là, ça a été l'ouverture, les papillons, et j'ai retrouvé la voix.
C'était quoi le premier titre que t'as écrit?
C'est un titre qui s'appelle Je sais qu'il est tard.
Ok. Mmh. Il y a un autre titre qui m'a vachement touché, où tu parles de 20 ans. Enfin, c'est le titre qui s'appelle 20 ans.
Ouais.
Où t'as... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un titre qui parle de cette période étrange où t'es plus jeune et t'es pas encore vieux,
tu vois.
Je
sais pas.
Où t'es un peu entre deux, t'es pas encore maman. Enfin, tu vois, tu parles de tout ça. Et je me demandais un peu d'où ça devenait, justement.
Ouais, vaste sujet. Disons que c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce titre, en fait, le tout début des paroles, c'est en fait, moi, j'ai plus 20 ans. Et c'est sorti vraiment de manière libre et inconsciente. Et je me suis dit, tiens, très, très bizarre comme phrase, tu sais, de quand tu cherches un truc, ouais. Un
peu de l'écriture
et,
automatique.
Ouais, c'est un peu ça, tu vois, et c'est parti au champ, là, comme ça, tout seul. Je me suis dit, tiens, et tout, hein, je vais la noter, celle-là est pas mal, quoi. Et puis j'ai trouvé, ça se voit pas apparemment. Je me suis dit, ah, ça. Et en fait, c'était ultra chelou parce que. En fait, c'est comme si ma tête me dictait, tu vois, d'écrire ce genre de truc et m'indiquait que, en fait, il y avait un sujet pour moi. Mais j'avais jamais, genre, vraiment trop réfléchi.
Tu l'avais conscientisé.
Au sujet de ah ouais, je commençais à avoir un âge avancé par rapport à, tu vois, à tous les gens qui font de la musique et tout. Est-ce que t'es pas trop vieille pour ça? Est-ce que les gens autour te font sentir que bah t'es plus tu vois de la première fraîcheur, etc. Et donc
fraîcheur.
Ouais, je sais pas, je sais même pas si c'est une expression, mais du coup c'est vrai que c'est un sujet du coup qui en fait je me suis rendu compte en écrivant que c'était un sujet pour moi et que ça m'interrogeait et que j'avais vraiment des sentiments assez assez ambigu par rapport à cette question, quoi.
Voilà. C'est compliqué de vivre quand on est une meuf artiste.
Je pense, ouais.
Ouais.
En fait.
C'est compliqué pour toi.
Alors bon, l'idée c'est pas de se plaindre ou quoi, mais.
Non, juste. De... Voilà.
Mais je pense qu'il y a une réalité effectivement où l'industrie et à la fois, je peux faire un parallèle avec tous les jobs, parce que en fait, quand tu vois, quand t'as passé 50 ans et que tu te retrouves au chômage, bah tu retrouves, tu vois, difficilement un emploi. Donc il y a ce truc de péremption là qui est absolument nul, quoi. Et mais pour recentrer sur la musique, effectivement, je trouve que c'est quand même pas toujours facile, bon, déjà d'être une femme de base dans la musique. Et en plus, femme, quoi. C'est pas fille-femme, quoi. Donc, d'être femme de plus de 30 ans, voilà. C'est pas toujours easy, je pense, quoi. Il y a un truc quand même assez de jeunisme encore, je trouve. Et c'est dommage, quoi. Là où je trouve qu'il n'y a pas le même traitement pour les hommes, tu vois. Parce que si on regarde la frange des artistes masculins, vieux, entre guillemets, il y en a beaucoup, en femme il y en a quatre, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc tu t'interroges quand même, tu te dis pourquoi en fait les femmes disparaissent du paysage après un certain âge, quoi. C'est bizarre, je trouve.
Ok, non mais c'est intéressant,
pardon, hein, mais
non mais t'as raison, rendez-vous dans 10 ans,
ouais, on fera les comptes.
Je te souhaite d'avoir le même succès que, non, tu vois, je pense à Ben Mazuet qui chante aussi en français, ouais. qui a 40 piges, tu vois, et qui est au top de sa carrière,
ouais. Ah non, mais on a des super exemples comme ça, mais ouais. Entre guillemets, je veux dire, les exemples, il faut que ce soit plus des exemples, tu vois, pour, ouais, que ça soit la normalité, il faut que ça soit plus des cas isolés, ouais, ouais. Et voilà.
Non, je cherche des meufs femme, de 40 balais comme ça, et, en France, qui chantent en français.
Bah ouais.
Il n'y en a pas beaucoup.
Bah, non, je sais pas trop.
Si vous avez des, n'hésitez
des
pas
suggestions,
n'hésitez pas à nous envoyer des DM à Marie-Fleur et à moi sur Instagram. Il y a un autre titre aussi qui m'a marqué, qui s'appelle DTC. Pas DTC, justement. TDC, oh là là. Je me suis fait avoir.
TDC.
Je l'ai lu, DTC, première fois, je me suis dit. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire TDC? Qu'est-ce que ça veut dire? Tous des connards.
Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire cette chanson? Franchement, je ne sais pas trop.
Et de la colère en toi?
Ouais, en fait, ce titre, j'adore. C'est un de mes titres préférés, ouais, du disque. Pourquoi? Parce que, en fait, je crois que j'aime beaucoup le fait que je me sois permise de lâcher un « tous des connards » en refrain et de lâcher en plus un « c'est bien connu » derrière, parce que finalement, c'est plus ça qu'il faut, pour compléter la blague, entre guillemets, qu'il faut retenir, quoi. J'aime bien ce titre parce que, à la fois, c'est un titre, je trouve, assez contemplatif, et à la fois, j'aime... que genre les meufs ou les mecs qui l'écoutent puissent se projeter de manière complètement premier degré, parce que en fait quand tu viens de te faire larguer, parfois t'as juste envie d'hurler ça au monde entier, voilà. Et à la fois c'est vrai que bah moi mon positionnement il est plus ironique, quoi, tous des connards, c'est bien connu, on se doute bien que je pense pas ce que je suis en train de dire, mais que c'est voilà, c'est autre chose qui me pousse à dire ça. Donc non, c'est un morceau ambigu, mais j'aime bien ça. D'ailleurs, qui met assez mal à l'aise souvent les gens qui l'écoutent.
Ah ouais,
ouais, j'ai eu des retours de femmes, hein, aussi, d'ailleurs, qui m'ont dit « t'es un peu dur », etc. Je suis « peut-être pas ».
Qu'est-ce que ça dit de vous, si vous trouvez que...
Ouais, tu vois, c'est marrant. Chacun a son... voilà, son ressenti sur ce titre, et c'est franchement, j'avoue que quand j'ai fait écouter ce titre, tu vois, aux prémices, machin, du coup à mon entourage proche, c'était un peu le titre sur lequel j'observais le plus la réaction des gens, comment ils bougeaient la tête, leurs yeux, tu vois, les mains et tout, parce que je voulais vraiment prendre la température sur ce que ce titre leur procurait, quoi, comment ils le réceptionnaient, c'était vachement important pour moi. Et en fait, voilà, ça va.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler à mon micro? Parler de plein de trucs.
Non, mais on a un peu évoqué, peut-être le titre de l'album, là, je sais pas, oui, si ça va, je crois que... en fait, je l'ai appelé comme ça parce que je crois que j'avais pas de meilleures idées. Et à la fois, en fait, une fois que genre, je me suis dit ça va être ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que je trouve que ça dit rien de l'album. Et en même temps, ça dit quelque chose de ce que je suis, de ce que je pense, à savoir que c'est pas grave, tu vois, de pas savoir si on va bien. Dans une période où je pense que c'est important de l'entendre parce que on est tous un peu entre guillemets maltraités par le bonheur des autres qu'on voit s'étaler partout tout le temps. Et
ah, tu veux dire sur les réseaux sociaux,
ouais,
et tout,
ouais,
c'est
par
ça?
Ouais, okay. Je trouve qu'il y a un truc vraiment quasi malsain en fait, tu vois, dans l'exposition qu'on a de nos vies, dans le voyeurisme qu'on a de celle des autres, et qui peut créer parfois ce trouble de on n'arrive plus à se sonder. Pourquoi? Parce qu'on regarde plus ailleurs que chez soi. Et donc ce je sais pas si ça va, voilà, je l'ai appelé comme ça aussi pour ça, parce que je trouve qu'on, je sais pas, on a tendance à de moins en moins savoir, tu vois, comment on se sent.
Et je trouve, comme tu le dis, que c'est aussi important d'être sympa un peu avec soi dans cette, dans cette période étrange où on a tendance à vouloir à tout prix aller bien après le Covid, etc. Alors qu'en fait, je crois qu'on n'est qu'au début de l'ultime vague, tu vois, post-pandémie par rapport à la santé mentale.
Ouais, bien sûr.
Les répercussions, je crois, de ce qui va se passer au niveau mondial de cette période étrange, quoi.
C'est vrai.
D'incertitude, où d'un coup d'un seul, l'avenir n'est plus certain, etc. Il suffit de voir comment les jeunes aussi réagissent par rapport à c'est quoi la vie d'après, on ne sait pas, enfin, tu vois. Mais ouais, je suis très d'accord avec toi.
Voilà, donc si ça peut, tu vois, faire comme, tu vois, un effet câlin, tu vois, ce titre, tant mieux.
L'ouverture, donc on revient à l'ouverture à son public. Tu fais des câlins désormais à ton public.
Bien sûr.
La meuf a complètement changé. En tout cas, merci beaucoup Marie-Flore.
Merci à toi.
Effectivement, donc ton dernier album est écoutable un peu partout. Au moment où sortira ce podcast. Et puis, où est-ce qu'on peut trouver, parce que tu vas faire une tournée aussi,
ouais,
c'est ça.
Tout à fait.
Où est-ce qu'on peut trouver ton actu, c'est sur.
Alors, sur Instagram ou sur mon marieflore.com.
Je mettrai les liens, tu sais.
Je mettrai les liens et vous pouvez me retrouver à la Cigale, notamment à Paris. En septembre.
En septembre, oui. Merci beaucoup.
Merci à toi.
C'était super.
Merci.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.